Théologie fondamentale, Père Philippe, 16 décembre 1982, Rimont.
Continuons cette analyse de la première question de saint Thomas sur la somme pour essayer de comprendre les relations qui existent entre le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la foi. N'oubliez pas la perspective dans laquelle nous plaçons. Et que j'ai pris ce texte parce qu'il est particulièrement intéressant et qu'il est pour nous important de saisir comment saint Thomas, à la fin de sa vie, c'est intéressant avec ce que je vous disais ce matin à propos des voies de saint Thomas, regardez par rapport à la théologie, si saint Thomas a changé sa position par rapport à la théologie. Est-ce qu'il y a des précisions qu'il a données à la fin de sa vie et qu'au contraire, au début, il n'a pas donné? Alors, d'abord, saint Thomas nous a montré la nécessité de cette doctrine. Et je vous ai souligné à ce moment-là que la nécessité de cette doctrine, c'était la nécessité de la révélation. Ça, c'est très intéressant à voir. C'est pas commode à comprendre, mais c'est intéressant à voir. Deuxièmement, est-elle une science? Alors là, on n'est plus au niveau de la révélation. Donc, ce qui montre bien que l'article premier commande le second. Et que dans l'article premier est impliqué non seulement la révélation, mais aussi la théologie. Je vous ai dit, hein, l'unité, c'est la question, c'est pas l'article. Donc on ne peut jamais comprendre un article si on le sépare de l'ensemble. Et ici, c'est particulièrement important, vous voyez, si on regarde l'article 1 et l'article 2, ces deux articles s'intègrent l'un dans l'autre. Quand il s'agit de l'article 2, c'est net qu'il s'agit de la théologie, il ne s'agit pas de la révélation. On ne se demande pas si la révélation est une science. Il n'y a rien de scientifique dans la révélation. Pas du tout au niveau de la science. Donc, c'est nettement la théologie. Et l'unité de la théologie provient de la révélation. Et la nécessité de la théologie provient de la révélation. Vous voyez comme c'est intéressant de voir. C'est toujours en référence avec la révélation que saint Thomas montre la nécessité de la théologie, que saint Thomas montre l'unité de la théologie. Et ça, c'est très net, il suffit de regarder le texte. Est-elle une et multiple? Eh bien, c'est encore là où il va montrer qu'elle est une et multiple pour montrer que l'unité et la multiplicité de ce que représente la théologie reposent sur le fait de la révélation. La révélation est unique quant à sa raison formelle. La révélation est multiple quant aux sujets, aux réalités qui sont révélées. La révélation regarde des quantités de sujets. Toute l'histoire du monde. C'est le livre le plus gigantesque qui soit, depuis la création jusqu'au retour du Christ. La révélation couvre toute l'histoire du monde. Toute l'histoire de notre planète, toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est infiniment multiple. Cependant, il y a une unité. Quelle est cette unité? C'est la raison formelle de la révélation. Tout est révélé. Tout est pris directement dans ce fait que ça vient de Dieu. Vous n'avez aucune autre science qui est comme ça. Vous diriez l'histoire, mais non, mais même l'histoire, parce que vous seriez obligé de considérer que dans l'histoire, il y a des périodes différentes, des périodes qui sont préhistoriques. Tandis que vous n'avez pas une pré-révélation. Tandis que vous avez une période préhistorique, une période archéologique et des périodes qui vont au-delà. Parce que quand l'homme n'est plus là, hein, alors c'est justement, on ne peut plus rien dire. Alors, c'est très beau de voir ça, c'est très beau de voir ce regard si extraordinaire de l'unité de la révélation et donc de l'unité de la théologie. Alors, est-elle spéculative ou pratique? C'est de voir que, de fait, cette science est premièrement spéculative, mais qu'elle implique le point de vue pratique. C'est aussi très important de regarder ça. Parce que ça nous permet de comprendre que la foi est reçue dans notre intelligence avant la distinction de spéculatif et pratique. L'intelligence en elle-même, l'intellectus comme tel, l'intelligence comme telle, elle n'est ni spéculative ni pratique. Le point de vue spéculatif et pratique, c'est donc à l'intérieur du développement de l'intelligence où on aura une orientation spéculative et une orientation pratique. C'est l'orientation, c'est la finalité de l'intelligence. L'intelligence regarde quelque chose qu'elle contemple, qu'elle ne fait pas. Et l'intelligence regarde ce qu'elle est capable de faire. Et alors vous avez à ce moment-là la grande division entre une intelligence spéculative et une intelligence pratique. Mais l'intelligence comme telle est au-delà. Eh bien, la foi est reçue dans l'intelligence dans ce qu'elle a de plus fondamental. Donc, dans l'intelligence, quand elle est au-delà du spéculatif et du pratique. Oui, très important de bien comprendre cela, parce que ça nous aide à comprendre ce que c'est que la foi, ça nous aide à comprendre ce que c'est que la révélation. La révélation est au-delà de la distinction, et c'est pour ça qu'elle pourra être éminemment spéculative. Elle pourra être formellement spéculative et éminemment pratique. Elle sera les deux. Et par le fait même, la théologie est les deux. Et c'est tout à fait moderne de dire la théologie morale et puis la théologie dogmatique. Mais ça fait partie de certaines méconnaissances de ce que c'est que la théologie. Et petit à petit, cette méconnaissance de la théologie aboutit à ne plus comprendre ce que c'est que la morale et le dogme. Ce sont des subdivisions en fonction des professeurs. Il y a des spécialistes de la morale et des spécialistes du dogme. Alors, en fonction des professeurs, on projette sur la doctrine théologique une distinction qui n'aurait pas lieu. Il y a des cours de théologie morale. Remarquez qu'il y a une grande raison, je crois que tout ça est montré historiquement à partir de certaines méconnaissances de ce que c'est que la théologie de Saint-Thomas. Qui aboutit toujours, hein. On voit toujours aboutir au... Quel rapport entretient-elle avec les autres sciences? Je crois qu'on est arrivé à cet article 5. Hein. Quel rapport? La doctrine sacrée est-elle supérieure aux autres sciences? Ça, c'est aussi très important. Vous voyez, de comparationeius ad alias sciences. Donc, quelle relation a-t-elle avec les autres sciences? Les autres sciences sont appelées ses servantes, je relis. Aussi, lit-on au proverbe, la sagesse a dépêché ses servantes, elle appelle sur les hauteurs. Je vous ai dit, n'est-ce pas, ça c'est un petit... gardez ça ad intra. C'est vrai, c'est quelque chose de... On voit très bien la manière dont saint Thomas regarde la chose. La vérité est que cette science est à la fois spéculative et pratique, dépasse sous ce double rapport toutes les autres sciences. Elle s'enracine dans l'intelligence à un autre niveau que les autres sciences. Elle s'enracine à un autre niveau. Alors, parce qu'elle s'enracine à un autre niveau... Vous voyez, d'une certaine manière, on ne peut pas la comparer aux autres sciences. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, une comparaison, ça se fait à l'intérieur d'un genre. Il faut que les gens soient suffisamment proches pour qu'on puisse les comparer. Vous voyez. Quand vous comparez, un artiste avec le charcutier, ça se voit très bien. Vous voyez, voir, quelle différence y a-t-il entre ce poète et ce charcutier du coin, vous voyez, lequel est-il le plus intelligent? Deux types d'intelligence assez différentes. L'un, au point de vue économique, réussit très bien, et l'autre rate tous les problèmes, mais pas au point de vue économique. Ordinairement, c'est ce qui arrive pour le poète, à la différence du charcutier. Disons. Alors, on voit bien, c'est difficile de faire des comparaisons quand c'est alius genus vitae, un autre genre de vie. Alors, on voit que, que de fait, la théologie, parce qu'elle s'enracine dans la foi, est au-delà de cette distinction. Parlant des sciences spéculatives, on doit appeler la plus digne celle qui est la plus certaine et s'occupe des plus hauts objets. Alors ça, c'est toujours très intéressant. n'est-ce pas, de bien saisir, je vous l'avais dit, bien saisir comment saint Thomas fait les degrés du savoir. Pensez à Maritain. Les degrés du savoir. Parce que c'est ce que saint Thomas donne ici, il donne des degrés. Alors on peut mettre une hiérarchie. Une hiérarchie dans les sciences. Alors, les sciences spéculatives, les sciences dites spéculatives, une est plus digne que l'autre à cause de la certitude et à cause de la dignité de la matière. On a dit la dignité de la matière, il ne dit pas la dignité de l'objet. Hein? C'est intéressant aussi à préciser ça. Propter dignitatem materiae. Et on traduit des plus hauts objets. C'est intéressant de voir ça. C'est pas objet, c'est la matière. Dignitatem materiae, je crois que je lis bien. Quoi. Quantum ad utrumque excientia alia speculativas, donc. On peut même pas. C'est, pourtant, c'est de faire garder, c'est bon comme traduction ordinairement, mais là, vous voyez. C'est quand même intéressant, et on comprend la dignité de la matière. Les objets, c'est différent, tandis que c'est l'objet connu, c'est la réalité, on parle de la dignité. Il n'y a pas de dignité. L'objet, vous voyez, ne regarde pas, la dignité ne qualifie pas l'objet. Ça qualifie la matière étudiée. La matière qui est étudiée. Elle est beaucoup plus précise. Alors, à l'égard de l'un et l'autre, la certitude et la dignité de la matière, cette science excellite, donc elle transcende toutes les autres sciences spéculatives, selon la certitude, parce que les autres sciences ont une certitude qui provient de la lumière naturelle de la raison humaine, qui peut errer. Petit coup de patte, hein, voyez la certitude de Descartes, hein. Intéressant de voir ça. Saint Thomas relativise la certitude de toutes les sciences. Parce que ça provient de la nature qui peut errer. On ne dit pas nécessairement qu'elle erre. Tandis qu'au contraire, celle-là, elle a une certitude qui lui provient de la lumière de la science divine, qui ne peut errer. La foi en elle-même, quelque chose d'infaillible au point de vue de la certitude. La certitude de foi ne permet pas l'erreur et le doute. La certitude de foi, c'est vraiment ça. Et donc la certitude de foi rejaillit sur tout le reste de la science. Et c'est toujours par la foi. Selon la dignité de la matière, saint Thomas reprend, parce que cette science est principalitaire, elle est principalement de ces choses qui transcendent l'arrêt. La raison par son altitude, par sa hauteur. Les autres sciences considèrent ces choses seulement qui sont soumises à la raison. Donc la dignité de la matière, c'est parce qu'on regarde un mystère. Et le mystère transcende à une altitude supérieure à tout ce que l'intelligence peut atteindre. Et la certitude ici, elle provient de la lumière de Dieu. Vous voyez comment du côté spéculatif, la théologie l'emporte sur toutes les connaissances spéculatives. Certitude, dignité. Très intéressant de voir ça. Est-il question des sciences pratiques, on doit dire supérieures, celle qui n'est pas ordonnée vers une fin ultime, c'est-à-dire celle qui ne vise pas au-delà d'elle une autre fin. Telle la politique pour l'art militaire. Le bien de l'armée est en effet ordonné à celui de la cité. Quand la cité est malade, on prend le bien de l'armée. Bien, parce que de fait, c'est ce qui arrive. Or, la fin de notre doctrine, selon qu'elle est pratique, n'est autre chose que la béatitude éternelle. But auquel se réfèrent, comme à la fin suprême, toutes les autres fins des sciences pratiques. Toutes les autres fins des sciences pratiques se réfèrent à la béatitude. La béatitude ne peut pas aller au-delà. Tandis que les autres fins sont toutes en référence avec celle-là. Toutes les autres fins des sciences pratiques. De toute façon, la science sacrée est donc prééminente. Omnem modo, Alice. Elle est plus digne. Elle a une dignité plus grande. Il s'agit de la dignité. Il ne s'agit pas de la valeur scientifique. Vous voyez bien, la conclusion est très importante. Parce qu'au point de vue science, vous ne pouvez pas dire que c'est la science par excellence. Selon le barème que vous prendriez des analytiques d'Aristote. Selon les analytiques d'Aristote, cette science est subalternée. Si elle est subalternée, elle est donc tout le temps dans un état d'imperfection. Si elle est tout le temps dans un état d'imperfection, au point de vue connaissance scientifique, elle est moins parfaite que les autres sciences. Mais au point de vue dignité, et c'est ça l'importance de bien comprendre, parce qu'autrement, on ne comprend pas cet article. Au point de vue de la dignité, alors c'est différent. Alors qu'est-ce que c'est que la dignité d'une science, hein? Elle est plus digne. C'est curieux. Hein? C'est pas du tout logique. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas du tout logique. On est dans une perspective tout à fait différente. On est dans une perspective humaine. C'est la science par rapport à l'homme. Alors la science par rapport à l'homme, elle a cette dignité. Vous voyez? Alors on voit la dignité au point de vue de la connaissance spéculative, certitude, la certitude c'est l'aspect du sujet, et la matière regardée. Oui. On ne parle pas de l'évidence, rien du tout là-dessus. Oui. Quand Saint Thomas dit que Cachetan dit que la vertu de foi n'est pas une vertu intellectuelle, vous voyez. C'est intéressant comme jugement, parce que c'est diamétralement opposé. Alors, si c'est très, très significatif, une science qui repose sur quelque chose qui n'est même pas une vertu intellectuelle. Donc, intellectuellement, la théologie perfectionne moins notre intelligence que la métaphysique. Mais elle perfectionne plus l'homme. C'est pour ça que je souligne dignité. Oui, oui. Vertu intellectuelle, habitus intellectuel, la théologie, habitus. Oui, elle est une science. Oui, vertu, oui, dans le sens très très large, hein, parce que la science n'est pas une vertu. La sagesse est une vertu, mais pas la science. Comme sagesse, elle est une certaine vertu, mais elle est une vertu, n'oublions pas, elle est liée à la science comme sagesse. Oui, alors elle est vertu d'un sens très différent, très, très particulier. Voyez. Je ne pourrais pas le dire simplicitaire, il faudrait dire vertu d'une façon très particulière. À cause de ce caractère d'imperfection de la science, comme science. Je vous dis, c'est une expérience que vous ferez sans doute, au moins certains d'entre vous, d'enseigner la théologie et d'enseigner la métaphysique. Quand on enseigne la métaphysique, on sent que l'intelligence doit aller jusqu'au bout de son autonomie d'intelligence. Et quand on enseigne la théologie, on sait bien qu'on est dépendant et qu'on est serviteur de l'Église. Et donc, au point de vue, j'allais dire, satisfaction de l'intelligence, la théologie est beaucoup moins satisfaisante de l'intelligence que la métaphysique. Et cependant, elle a une dignité plus grande. Rien n'est plus digne que la théologie. Et vous voyez, mais l'intelligence n'est pas la seule dignité de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Pas la seule dignité, il y a une dignité plus profonde qui est par rapport à la finalité. C'est un status, la dignité de quelqu'un. C'est l'état dans lequel il se trouve. et l'état dans lequel il se trouve par rapport à sa finalité. C'est curieux, c'est intéressant. Et on voit très bien que des articles comme ceux-là sont difficiles à comprendre, hein, voyez. Difficile. Vous voyez, un Sorbonnard lisant ça. Hein. Là, c'est pas étonnant, ça, un plaidoyer pro domo. Hein, c'est Saint Thomas qui plaide. Il est théologien, il montre que la théologie, mais oui, c'est ce qu'il y a de plus grand. Attention, faites attention. Quand il finit ça, unde manifestum est, secundum omnem modum alis, iam dignorem esse. Elle est plus digne. Elle est plus digne. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très mauvais quand on est-elle supérieure. C'est pas très bon. C'est pas de Saint Thomas, ça. Parce que Saint Thomas, mais c'est même pas de Saint Thomas la traduction. D'ignore. Je crois que d'ignore, c'est quelque chose de spécial. Ce que Saint Thomas souligne, c'est quel rapport entretient-elle avec la science. Décomparationner, c'est la comparaison. Alors on va voir les réponses aux objections. Alors, première objection. La supériorité d'une science dépend en effet de sa certitude. Or, les autres sciences qui s'appuient sur les principes qui ne peuvent être mis en doute paraissent plus certaines que la doctrine sacrée, dont les principes qui sont les articles de foi ne jouissent pas de cette prérogative. C'est l'objectant. Hein. Les autres sciences paraissent donc être supérieures. Répond. Rien n'empêche qu'une connaissance plus certaine par sa nature soit en même temps moins certaine pour nous. Alors, c'est le quoi de nous et les secundum natura. La science par rapport à nous et la science considérée en elle-même. Donc, soit en même temps moins certaine pour nous, cela tient à la débilité de notre esprit. Débilitatem, j'aime mieux mettre débilité que notre faiblesse. Hein. Cela tient à la débilité de notre esprit qui se trouve, dit Aristote, devant les plus hautes évidences des choses, comme l'œil du hibou en face de la lumière du soleil. Ça, c'est une phrase qu'il faut bien se retenir. Hein. N'hésitez pas, surtout dans les examens. « Se habet ad manifestissima rerum, sicut oculus noctue ad lumen solis. » Vous êtes comme le hibou. C'est pour ça que le hibou symbolise le philosophe. C'est le symbolisme du philosophe, c'est qu'il est complètement pris par quelque chose qui le dépasse. Devant les plus hautes évidences des choses, comme l'œil du hibou en face de la lumière du soleil, le doute qui peut surgir à l'égard des articles de foi ne doit donc pas être attribué à une incertitude des choses mêmes, mais à la faiblesse de l'intelligence humaine. Malgré cela, le peu de connaissances qu'on peut acquérir touchant les choses les plus hautes est plus désirable qu'une science très certaine des choses moindres, ainsi que le dit Aristote. Tamen minimum quod potest aberi de cognitione rerum altissimarum desiderabilius est quam certissima cognitio quam abetur des minimis rebus. Très beau, ça. Vous voyez, c'est simplement par rapport à la certitude. C'est pour qu'on précise le point de vue de la certitude. Attention. Alors, je disais qu'on regardait la science par rapport au sujet. Oui. En tant qu'elle qualifie le sujet, mais pas qu'en tant qu'elle qualifie tel sujet. Un théologien qui n'a pas une très grande foi, un théologien qui n'est pas contemplatif, un théologien qui commence à trembloter un peu, pas, au point de vue de sa foi. Vous comprenez que par le fait même, sa théologie, objectivement, secundum naturam, Cette théologie en elle-même a la plus grande certitude, mais à fonction de ce théologien, elle n'a plus la plus grande certitude. Mais ça, ça ne touche pas la théologie. Ça touche la déficience de ce théologien. Ce théologien est déficient. Il a une débilité, n'est-ce pas, comme théologien. Alors on voit comment cette certitude peut se prendre de deux manières, en elle-même et par rapport à la débilité de l'intelligence du théologien. C'est sûr qu'un théologien qui n'a pas de philosophie très nette, qui n'a pas de métaphysique très nette, à cause de la débilité de son intelligence, dira oui, oui. Alors il fera intervenir l'herméneutique. Il ne comprendra plus la différence entre le TST et le POS. Il ne comprendra plus. Il ne verra pas. On voit très bien. Saint Thomas souligne ça. Il le soulignera encore plus aujourd'hui. Donc le doute qui peut surgir à l'égard des articles de foi ne doit pas être attribué à l'incertitude des choses mêmes, mais à la faiblesse de l'intelligence humaine. Donc, je crois qu'on voit bien comment il y a le point de vue de la certitude qui relève de la foi, alors une certitude objective qui relève de la foi. Parce qu'on adhère à l'autorité divine, et rien n'est plus certain que quand on adhère à l'autorité divine. Donc il y a une certitude qui dépasse toutes les autres certitudes. Et en plus, il y a ce fait, et alors malgré cela, le peu de connaissances qu'on peut acquérir touchant les choses les plus hautes est plus désirable que les sciences. Alors là, on revient sur la dignité des matières et la hauteur des matières. Les matières sont tellement hautes et tellement élevées que la moindre petite certitude qu'on a nous aide à considérer tout le reste. Alors, deuxième objection, c'est le fait d'une science inférieure d'emprunter à une science supérieure. Ainsi en est-il du musicien par rapport à l'arithméticien. Or, la doctrine sacrée fait des emprunts aux doctrines philosophiques. Saint Jérôme dit en effet dans une lettre à un grand orateur de la ville de Rome, en parlant des anciens docteurs, ils ont parsemé leurs livres d'une telle quantité de doctrines et de maximes de philosophes qu'on ne sait ce qu'on doit admirer davantage, de leur érudition séculière, ou de leur science des Écritures. Bon, qu'est-ce qu'on doit regarder? C'est très joli comme comparaison. La doctrine sacrée est donc inférieure aux autres sciences. On oppose les deux. Alors, voici la réponse de saint Thomas. La science sacrée peut faire des emprunts aux sciences philosophiques, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas qu'elle lui soit nécessaire. C'est uniquement en vue de manifester mieux ce qu'elle enseigne. Ça, c'est aussi très important. Ad maiore manifestationem eorum, quae in hac scientia traduntur. Ces principes ne lui viennent en effet d'aucune autre science, mais de Dieu immédiatement par révélation. La théologie n'emprunte pas, vous voyez, les principes à la philosophie. Ça, c'est dit textuellement. Ces principes, ne lui viennent en effet d'aucune autre science, mais de Dieu immédiatement, par révélation. D'où il suit qu'elle n'emprunte point aux autres sciences, comme si celles-ci lui étaient supérieures, mais au contraire, qu'elle en use comme d'inférieures et de servantes. Ainsi en est-il des sciences dites architectoniques, qui utilisent leur inférieur comme le fait la politique pour l'art militaire. Du reste, que la science sacrée utilise les autres sciences de cette façon-là. Le motif n'en est point son défaut ou son insuffisance, mais la faiblesse de notre esprit qui est acheminé avec plus d'aisance à partir des connaissances naturelles, d'où procèdent les autres sciences vers les objets qui la dépassent et dont cette science traite. Donc vous voyez comment saint Thomas ici montre quelque chose de très curieux. Nous aurions un petit peu la tentation de considérer que la théologie nécessairement fait des emprunts aux principes philosophiques. Saint Thomas dit non. C'est dit explicitement, c'est chose très très. La science sacrée peut faire des emprunts aux sciences philosophiques. Excientia, accipere peut-être aliquid. Aliquid, quelque chose. C'est aliquid. Considérer que la théologie nécessairement fait des emprunts aux principes philosophiques. Saint Thomas dit non. C'est dit explicitement, c'est chose très très. La science sacrée peut faire des emprunts aux sciences philosophiques. Excientia, accipere peut-être aliquid. Aliquid, quelque chose. C'est aliquid. Alors, qu'est-ce que c'est que cet aliquid, hein? Toute la question est là. Qu'est-ce que c'est que cet aliquid? Voilà ce qu'elle emprunte. Elle apprend quelque chose aux disciplines philosophiques. Non quod ex necessario eis indigeat. Ça n'en a pas besoin. Et pas que c'est quelque chose de nécessaire. Mais ad maiorem manifestationem. Vers une manifestation. C'est en vue d'une manifestation. C'est pour une manifestation plus grande. C'est pour ça qu'elle emprunte ça. Alors, il ajoute, ces principes ne lui viennent en effet d'aucune autre science, mais de Dieu immédiatement par révélation. Donc, aliquid n'implique pas des principes. Pas étonnant que vous ne retrouvez pas les principes de la philosophie dans la somme théologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet aliquid? C'est toute la grande question. Hein. On n'a jamais traité, je crois, de façon très, très, très pertinente, vraiment, cet aliquid. Qu'est-ce que ça emprunte? Qu'est-ce que c'est que cet aliquid? Saint Thomas nous dit les principes propres, non. Les principes propres de la philosophie, de la théologie, les principes propres de la théologie ne sont pas des principes propres de la philosophie. Alors, on comprend ce que c'est que cette aliquid. Ce sont des notions tout à fait générales. Ce sont des principes communs, et ainsi de suite. Principes de non-contradiction. Oui, c'est vrai. La théologie s'en sert du principe de non-contradiction. La théologie se sert du principe de causalité, principe commun, pas le principe propre. Ça va très loin, ça, si on veut essayer de comprendre ce que c'est que la théologie. D'où il suit qu'elle n'emprunte point aux autres sciences comme si celle-ci lui était supérieure, mais au contraire, qu'elle en use comme d'inférieure et de servante. Elle ne peut se servir que de ce dont elle peut utiliser comme quelque chose d'inférieur. Ainsi en est-il des sciences dites architectoniques qui utilisent leur inférieur, comme fait la politique pour l'art militaire. Vous voyez, la philosophie, c'est l'art militaire dans le corps. Et la théologie, c'est la politique. Du reste, que la science sacrée utilise les autres sciences de cette façon-là, le motif n'en est point son défaut ou son insuffisance, mais la faiblesse de notre esprit, qui est acheminé avec plus d'aisance à partir des connaissances naturelles d'où procèdent les autres sciences vers les objets qu'il dépasse et dont cette science traite. Vous voyez bien là comment saint Thomas traite cette question de la manière dont la théologie emprunte la philosophie. Elle n'emprunte pas les principes propres, mais elle emprunte aliquid, quelque chose. Elle emprunte quelque chose. Alors je crois que si on veut préciser, ce sont les notions, ce sont les concepts. Parce que qu'est-ce qu'elle peut emprunter? Elle peut emprunter les principes propres, non. Le jugement d'excellence, non. Donc elle ne peut emprunter que les notions, que les concepts. Que les concepts qu'elle n'a pas et qu'elle peut utiliser. Les concepts, on peut les utiliser. Dans un nouveau contexte, dans de nouveaux principes, on peut les utiliser. Parce que ces notions sont analogiques. Si ces notions n'étaient pas analogiques, on ne peut pas. Si elles étaient univoques, on ne pourrait pas. Parce qu'on passerait d'un domaine à l'autre. Donc on ne pourrait pas, elle peut, uniquement les notions analogiques, elle peut s'en servir. Et elle peut s'en servir pour quelque chose de plus grand. Oui.
Quand ça veut dire qu'on n'a pas besoin, mais absolument nécessaire, de la philosophie, ça veut dire qu'une intelligence limpide.
Oui, tout à fait.
Possède la science.
Possède la science suffisante pour expliquer. Et puis ça veut dire aussi, je crois, que vous voyez, au sens tout à fait profond, ces notions tout à fait, c'est des notions, les notions philosophiques tout à fait élémentaires, profondes, la paternité. Si vous aviez une connaissance parfaite de la paternité, vous n'auriez pas besoin, vous voyez, de vous servir. C'est ce point de vue-là. C'est pas, au fond, c'est pas la philosophie dont on se sert de l'intelligence purifiée par la philosophie. Vous voyez, au sens tout à fait rigoureux. C'est pas la philosophie dont on se sert. C'est l'intelligence purifiée par la philosophie. Nous avons besoin d'avoir une intelligence purifiée par la philosophie pour qu'elle puisse être au service de la foi. C'est très important, ce petit passage. Je sais très bien que c'est à la secundum. Alors, c'est à la secundum, on peut dire, c'est pas la doctrine la plus absolue de saint Thomas, c'est un petit peu à côté. C'est vrai, c'est un petit peu à côté, mais c'est intéressant de voir cette allitrine. Et de vous poser la question, qu'est-ce que c'est que cette allitrine? Bon, je veux passer. Vous voyez suffisamment comment, de fait, cette question est intéressante, difficile, pas commode à bien traiter, difficile, à cause de cette dignité. Et puis ici, on veut montrer comment. C'était la question qu'on se posait l'autre jour. Comment la philosophie peut-elle être servante? C'est l'intelligence qui est au service. Je crois que c'est très juste de dire ça. Alors, article 6. Cette doctrine est-elle une sagesse? Au principe de la loi, le Deutéronome fait cette déclaration. Telle sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Je ne crois pas que le Deutéronome pense beaucoup à la théologie, vous voyez. Rien. Alors, c'est sûrement une donnée traditionnelle que nous avons en France. Alors, vous regardez, c'est le premier qui a des ordres. C'est intéressant à voir. Travail intéressant. Donc, je teste. Telle sera votre sagesse. Et qu'est-ce Nostra Sapientia d'intellectus, coram populis. Coram populis. Hein. Votre théologie, c'est pour le coram populis. C'est en face du peuple de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu que vous avez besoin de votre théologie. Pour qu'on voit bien votre sagesse. Pour qu'on voit que vous connaissez bien. C'est vrai, ça, je crois que c'est coram populis. Alors, le corps de l'article est celui-ci. Cette doctrine est par excellence une sagesse, parmi toutes les sagesses humaines, et cela non pas seulement dans un genre particulier, mais absolument. Alors là encore, des petites distinctions bien propres à saint Thomas et très intéressantes. cette doctrine maxime sapientia. Alors, il faut voir le maxime. Maxime étalé. Cette doctrine, elle est sagesse au sens le plus absolu. Et inter omnes sapientias humanas, non quidem sit in aliquo genere tantum, sed simpliciter. Donc cette doctrine est par excellence une sagesse parmi toutes les sagesses humaines, et cela non pas seulement dans un genre particulier, mais absolument. En effet, puisqu'il appartient aux sages d'intimer l'ordre et de juger, ordinare judicare. Ça, c'est aussi à retenir. Hein. Le propre du sage, c'est d'ordonner et d'intimer et de juger. Intimer l'ordre. Et que d'autre part, le jugement, pour ce qui est inférieur, s'obtient par un appel à une cause plus élevée. Celui-là est le sage en un genre quelconque qui prend en considération la cause suprême de ce genre. Par exemple, s'il s'agit de construction, l'homme de l'art qui a disposé les plans de la maison mérite le titre de sage et d'architecte. Au regard des techniciens inférieurs qui travaillent les pierres ou préparent le ciment, le Gatsos, qui est celui quand même qui a fait le plan de l'étude. Ce pourquoi l'apôtre dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, que s'il s'agit de la vie humaine, dans son ensemble, l'homme prudent sera plus sage du fait qu'il ordonne les actions humaines vers la fin qu'il doit atteindre. Ainsi est-il dit au proverbe, le sage et la sagesse et prudence pour l'homme. Celui-là, donc, qui prend de façon pure et simple, comme objet de considération, la cause suprême de tout l'univers qui est Dieu, mérite par excellence le nom de sage. C'est pourquoi, comme on le voit dans saint Augustin, la sagesse est appelée la considération la plus digne. Or, la doctrine sacrée traite très proprement de Dieu, selon qu'il est la cause suprême, car elle ne se contente pas de ce qu'on peut en savoir par les créatures, ce que les philosophes ont connu, ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, dit en effet l'apôtre. Elle enseigne aussi de Dieu ce qui n'est pas connu, ce qui n'est connu que par lui seul et qu'il nous communique par révélation. La doctrine sacrée mérite donc par prudence, la doctrine sacrée mérite donc par excellence le nom de sagesse. Donc, vous voyez comment saint Thomas montre ce caractère de sagesse à la doctrine sacrée. De montrer qu'elle regarde la cause suprême. Et qu'en regardant la cause suprême, elle va nous donner par le fait même une possibilité de juger de tout dans la lumière de la cause suprême. Et qu'elle donne ce titre au sens le plus absolu. Qu'elle a ce titre au sens le plus absolu par rapport à toutes les autres sagesses.